Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral, où j'ai le bonheur d'accueillir Joël Marteau. Joël Marteau qui était déjà venu nous présenter son premier livre, Épave d'avion, un livre qui a eu pas mal de succès puisqu'il est déjà épuisé. Et aujourd'hui, il est là pour nous parler d'un second livre, La guerre n'est pas une aventure. Et c'est un titre qui interpelle beaucoup. Joël Marteau, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous présente, vous étiez guide de montagne.
Accompagnateur en montagne,
accompagnateur de montagne. Vous avez bien vécu dans la nature.
Oui.
Et c'est ce qui avait donné ce premier livre sur les épaves d'avion.
Épaves d'avion en pays d'Ignois, oui, mm-hmm. qui a eu beaucoup de succès, puisque, bon, comme vous le disiez, il est épuisé. Il est probable, enfin je vais essayer de refaire une réimpression parce qu'on me le réclame, donc voilà. Et donc celui-là.
Et celui-là, La guerre n'est pas une aventure.
La guerre n'est pas une aventure.
Quel titre ?
Alors, le titre vient d'une citation de Saint-Exupéry.
Ah d'accord.
Bon, encore un pilote d'avion, on y revient toujours. C'est dans Pilote de guerre. D'ailleurs, la citation apparaît dans les premières pages, là, où il dit qu'il a vécu tout un tas de choses, entre l'aéropostale, les traversées du désert, se cracher dans le désert, écrire Le Petit Prince, tout ça, mais que là, il se retrouve pilote de guerre, en pleine, c'était en 1940, quand il a écrit ce livre-là, et il conclut son propos en disant « J'ai vécu tout un tas d'aventures, mais la guerre, c'est pas une aventure ». Voilà. Et alors, ce petit recueil de quatre nouvelles, ce sont les histoires que je racontais à l'heure du pique-nique dans les alpages d'altitude pendant mes randonnées, lorsque je travaillais pour des villages de vacances. Donc j'avais des groupes constitués. Et pour animer un petit peu l'après-pique-nique, où je voulais pas que les gens ils bougent trop, voilà, on n'était pas là pour faire de la course au trail, quoi, hein. On était là pour observer le paysage, prendre l'ambiance montagne, telle qu'on sait la décrire, quoi. Et donc je leur racontais des histoires. Et il y a un responsable de groupe un jour qui m'a dit « Tu devrais faire une chaîne YouTube ». Et puis raconter ces histoires sur les chaînes YouTube. Alors j'ai essayé avec une production qui s'appelle Wigo Productions, une production de cinéma locale. On avait essayé, on a fait des rushs et tout, et puis en fait c'était extrêmement compliqué, ça coûte extrêmement cher. Et puis bon, je l'ai laissé tomber. Et on en parlait à l'instant, une fois à la retraite, j'ai dit qu'est-ce que je voulais pas que ces histoires se perdent. Et du coup, je les ai écrits.
Donc, quatre nouvelles où des agents secrets côtoient des gens ordinaires. C'est ce que vous mettez dans votre quatrième de couverture. Mais avec ce point commun d'être protagoniste d'histoires extraordinaires.
Oui, oui. Des grandes aventures. Des grandes aventures et qui font aussi... Ça fait aussi penser que la guerre en soi n'est pas une aventure. L'aventure, c'est la rencontre humaine. C'est surtout ça.
Donc, c'est des histoires inspirées de faits réels, de mai 1940 à août 1944.
Oui.
Avec des personnages ayant existé. Donc,
alors, voilà,
ce sont... réel. Alors, d'où vous viennent ces sources ?
Alors, inspirées de faits réels.
D'accord.
Alors, il y a deux nouvelles qui sont connues du grand public, notamment, alors il y a le chemin du fusillé, c'est Alfonso del Vicario qui a été fusillé à la ferme de Laval en avril 1944 et qui a survécu à ça et qui a fait un périple au pied du Cheval Blanc pour aller prévenir les maquis FTP qui étaient à Drex. Et donc, c'est cette histoire que je raconte. Et ça, c'est déjà connu. Puisque, il y a eu, par exemple, cette année, une commémoration à la ferme de Laval par rapport à ce massacre qu'il y a eu. Une seconde histoire qui a fait l'objet d'un podcast, j'ai un peu du mal avec le franglais, là. un podcast sur une radio concurrente, là, une petite radio, là, je crois que c'est France Inter, un truc comme ça, voilà, une petite radio locale. Donc ils ont fait un podcast sur Christine Granville, là, qui est un agent des services secrets britanniques, du SOE, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et Christine Granville a fait un de ses exploits d'agent secret, elle l'a fait à Digne, voilà, puisqu'elle est venue sortir des griffes de la Gestapo le responsable du MI5, Francis Kammerherz, qui avait été arrêté à l'entrée de Digne, l'avant-veille. Et donc là, il fallait quand même que il fallait le libérer à tout prix, le libérer ou carrément l'abattre, quoi, parce que Francis Kammerherz était au courant du débarquement de Provence. Et il savait pratiquement le lieu, il savait pratiquement les dates, hein, voilà. Et donc il fallait pas qu'il parle, et il fallait le sortir de là, quoi. Et donc, elle a commis cet exploit. Donc, Christine Granville et Alfonso Del Vicario, ce sont deux héros dont je raconte l'histoire. Alors, là, c'est un peu particulier parce que, au départ, moi, quand je racontais ça de vive voix, c'était extrêmement romancé. Je fais le conteur, en quelque sorte. Donc, j'en rajoutais. Et puis, après, je me suis dit, non, attends, tu vas l'écrire, tu vas le publier. Ça a déjà été écrit, notamment dans le livre de Guy Raymond, l'ancien archiviste communal à Digne, qui a fait « Ça sentait le vent et la liberté ». Il soufflait un vent de liberté, je ne me rappelle plus, c'est dans le bouquin. Et donc, c'est ce livre qui m'a fait connaître ces deux anecdotes-là. Donc là, il a fallu que j'aille quand même aux archives, chercher des témoignages, des écrits, depuis il y a des choses qui sont sorties. J'ai appris ainsi qu'il y avait un deuxième fusillé qui avait survécu, qui s'appelle Pascal Ruggiero, qui lui a eu moins de chance parce que Alfonso Del Vicario, je crois qu'il est décédé très récemment. Pascal Ruggiero est décédé à Prats, sur dénonciation. Donc en août 1944. Et puis les deux autres anecdotes. Donc, qui elles, ben, il n'y a pas eu de recherche aux archives, puisque ce sont des histoires totalement inédites. Donc elles m'ont été racontées par les descendants des protagonistes, et c'est du bouche à oreille. Et donc là, j'ai pu un peu romancer, tout en... J'ai pu quand même vérifier que ces histoires avaient laissé des traces dans les archives. Parce qu'on arrive à retrouver des détails en disant... voilà. Alors, ces deux histoires, on en parle, là.
On en parle, moi, je suis toute oui. J'adore qu'on me raconte des histoires, déjà.
Eh bien, voilà, c'est ça. C'est ce qui avait fait le succès de ces anecdotes. C'est qu'on était en pleine montagne, à plus de 2000 mètres, au bord d'un lac d'altitude. Il y a du soleil, il fait bon, on a passé une bonne matinée, on a vu des belles choses. Et puis, ben voilà que Jojo commence à raconter une histoire. Alors, c'est des histoires qui sont des fois dramatiques, hein, parce que, bon, il y a une notion de guerre là-dedans. Il y a une notion de drame, de tragédie. Et des fois, là, je vais prendre l'exemple des cousins du col de l'Arche. Là, ça devient, on frôle l'absurde et l'incompréhensible. Imaginons donc mai 1940. En mai 1940, On est en plein dans la drôle de guerre. Les armées s'observent, il y a encore des négociations, on ne sait pas trop. Bon, les Allemands, ils sont sur le point de mettre leur grande offensive, mais au col de l'Arche, à la frontière italienne, il y a l'armée italienne qui est en face. Mais l'armée italienne n'est pas en guerre contre nous. Elle le sera au mois de juin. Elle n'est pas encore en guerre. Et donc, les soldats français et les soldats italiens s'observent. Ils sont de part et d'autre, ils ont les armes à la main, ils s'observent. Il n'y a pas de déclaration de guerre, il y a menace, hein, il y a quand même un amoncellement de troupes, de matériel. Voilà. Et à force de s'observer, ils se rapprochent les uns des autres, et puis ils en viennent à discuter, entre eux. Et puis ils en viennent à discuter entre eux, puis ils en viennent jusqu'à jouer aux cartes, ensemble.
Ah oui.
Alors ça, je l'ai retrouvé dans les archives. Hein, parce qu'il y en a qui se sont fait choper. C'était pas. Bon, après, ils n'étaient pas en guerre. Hein, donc, des soldats italiens qui venaient au poste de frontière de l'Arche discuter avec les douaniers. Des officiers. Ils venaient discuter, comment ça? Bon, voilà. Et donc, les cousins du col de l'Arche, ils se sont retrouvés à se retrouver un cousin. Entre deux soldats français et italiens, ils se découvrent que le soldat français est issu de l'immigration italienne. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tirer dessus? Ah! Et puis, c'est des sous-officiers, quoi. C'est pas c'est pas des simples soldats, quoi. Ils ont des ordres à faire, des choses comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?
Et on le saura en lisant le livre.
Ah ben oui, parce que là je veux pas vous le raconter.
Bah oui, bien sûr. Donc c'est passionnant. La guerre n'est pas une aventure, par Joël Marteau. Donc c'est l'une des anecdotes, enfin des nouvelles contées dans ce livre.
Alors ça c'est du bouche à oreille, hein. Mm-hmm. C'est du bouche à oreille. C'est donc la nièce du héros du sous-officier français qui m'a raconté ça. Et alors je l'ai un peu arrangé. Effectivement, je l'ai rendu humaine, l'histoire. Je l'ai romancé. Ah. Voilà, j'ai mis des dialogues, j'ai mis des couleurs, des odeurs, j'ai mis du relief, j'ai mis du texte, hein. Voilà. De façon à ce que ce soit, que ça touche. Après, la véracité, la vérité dans ce qui s'est vraiment passé, je suis dans les grandes lignes. Parce que voilà, c'est l'anecdote qui m'a été racontée. Est-ce qu'il faut vraiment que les choses soient vraies? Si on prend par le passé, je vais revenir sur les deux autres anecdotes, Christine Granville et Alfonso Del Vicario. Là, il y a des archives, il y a des rapports, il y a des enquêtes. Il y a eu, il y a eu après un jugement au tribunal. Il y a eu en après-guerre, dans les années 50. Il y a eu tout un tas de choses. Il y a les services secrets derrière. Il y a tout un tas de rapports et d'archives qui fait que là, j'étais il a fallu quand même que j'affine. Que je donne un peu des précisions, des dates, des lieux, des choses comme ça. Il y a des plaques commémoratives, pas trop romancées, quoi. Alors oui, j'ai mis des dialogues, oui, j'ai fait en sorte que ce soit lisible, que ce soit pas un simple rapport militaire. Pour les cousins du col de l'Arche et puis l'histoire d'Alphonse, on va en parler après. Pour ces histoires-là, j'avais pas plus de précision. Et là, j'ai changé les noms. Quelquefois, je suis resté très imprécis dans les lieux, mais dans les grandes lignes, on reste on reste là-dedans. Je vais prendre l'exemple de l'histoire de Roland de Roncevaux.
Oui.
On connaît tous, parce qu'on l'a appris à l'école, l'histoire de la chanson de Roland. Alors, c'est une chanson de gestes, c'est-à-dire que ce sont des récits. C'est ce qu'on appelait, c'était les conteurs qui faisaient ça, les colporteurs, les saltimbanques. Hein, bon. C'était de la transmission de bouche à oreille. Bon, il y a eu des écrits, mais c'était quand même... c'était sous Charlemagne, quoi. L'histoire de Roland qui brise son épée sur un rocher parce qu'il ne veut pas que les Sarrasins la prennent, et ça fait la brèche de Roland dans le cirque de Gavarnie, qui va croire en ça? Bon, quand même, il était costaud le Roland, mais elle était solide l'épée, mais bon, de là tailler une brèche qui fait quand même pas loin de, je crois c'est 90 mètres de haut ou quelque chose comme ça, on va pas nous la faire, Et bien pourtant, c'est l'histoire qu'on nous raconte à l'école.
Eh oui.
C'est quoi? Et qu'est-ce qui a fait que cette histoire, on s'en souvienne? Eh bien c'est parce que ça a été romancé, entre guillemets, par la chanson de gestes. Voilà, alors je me fais peut-être le colporteur pour l'avenir, pour les générations futures, je pense à mes petits-enfants et aux petits-enfants des collègues. Là, on a parlé beaucoup de souvenirs, la libération de Digne, la libération de... Là, j'étais à la cérémonie de la libération de Bourgoin-Jallieu, c'est parce que, ça m'a conduit là-bas. Se souvenir, oui, mais pour l'avenir. Et je pense que le fait de raconter des histoires, d'intéresser les gens à ce genre de choses, ça peut peut-être les porter à réfléchir.
Et c'est important, oui.
Important. Si je reprends par exemple l'histoire des cousins du Col de l'Arche, sans faire de discours politiques, on parle beaucoup d'immigration en ce moment. C'est dans les programmes électoraux et tout. Faites attention. C'est là qu'on s'aperçoit que il y a deux belligérants qui se trouvent face à face et qui sont issus de la même origine, de la même nation. C'est les mêmes, c'est deux cousins, quoi. Voilà. Attention. Faut manipuler ça avec énormément de prudence. Voilà.
Merci Joël Marteau.
Ouais.
Est-ce que vous avez un autre livre en attente, en préparation,
oui.
D'autres projets d'écriture? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu les...
Alors,
Déjà, ce livre va être dédicacé.
Là, j'ai déjà commencé avec l'ONAC. C'était à Géoparc, c'était dimanche 18. Le 18 août, j'étais à Géoparc pour la matinée, parce qu'après je devais me déplacer, pour une dédicace. C'était dans le cadre de la commémoration de la libération de Digne. Samedi matin, je serai à la librairie de la presse.
Donc on sera le 31 août.
Voilà, où il y aura une dédicace. Le 20 septembre, je serai... avec probablement le monsieur qui m'a fait la préface, qui est mon binôme montagne. On fait du ski ensemble, on fait du...
Il s'appelle
Alain Picozzi.
Picozzi.
Je dis bien Picozzi. Voilà, qui m'a beaucoup aidé, notamment pour la façon d'aborder toutes ces histoires de soldats italiens et leurs cousins, quoi. Donc ça sera le 20 septembre à la librairie La Ruelle à partir de 18h30 je crois, où il y aura, alors là ce sera plutôt une rencontre. Une rencontre où je viendrai un peu expliquer, un peu comme ici, comment j'ai retrouvé tout ça, comment j'ai pu recouper des faits.
18h30
je crois que c'est 18h30,
D'accord. Dédicace à la ruelle le vendredi 20 septembre. Pour ce livre, La guerre n'est pas une aventure.
Okay. Voilà. Donc ça se tient aux deux librairies de Digne. Et ça, je m'en limiterai à ça parce que bon, mon but, c'est pas de faire de transmettre. Mmh. Voilà. Et puis, un livre futur. Il y a deux ans, un monsieur pas très recommandable là-bas à Moscou a décidé de faire une opération spéciale. Et donc il a envahi l'Ukraine. Et là, moi, j'ai vu des images qui me parlaient. C'est-à-dire que j'ai vu des gens sur la route qui cherchaient à se rendre en Pologne. Des mamans avec un gamin dans chaque main, avec leur petit sac à dos et le doudou dans les bras, des voitures avec des matelas ficelés sur le toit, c'est pas pour emporter le lit, c'est pour éviter les éclats d'obus. Là j'ai appris ça, et quand j'ai vu cet exode, ces gens jetés sur la route dans les trains bondés, cet affolement qu'il y avait. Et ça m'a rappelé ce que ne m'a pas raconté mon père. Mon père habitait Rilly-la-Montagne, entre Épernay et Reims, puisqu'il est de là-bas. Il est né dans une cave à champagne, c'était bien. Et donc, un jour sombre de mai 1940... il venait d'être opéré d'une mastoïdite, c'est-à-dire qu'on lui a retiré l'oreille. Il n'y avait plus que le pavillon. Pour un musicien, ce n'était pas très commode. Il avait 17 ans et demi. Oui, je crois, voilà, il avait 17 ans et demi. Le maire de Rilly-la-Montagne est venu voir ma grand-mère. Mon grand-père était sur le front. Il était médecin militaire. Il est venu voir ma grand-mère et il lui a dit... il va falloir quitter le village, on va évacuer. Est-ce que vous avez une voiture ? Ben, elle a dit, j'ai la voiture des cousins, mais je ne sais pas conduire. Est-ce que votre fils sait conduire ? Oui, mais il n'a pas le permis. Bon, écoutez, voilà, vous avez la voiture, je vous donne deux jerrycans d'essence. Il sait conduire, votre fils ? Oui. Bon, ben, je lui fais un permis provisoire, et vous prenez la route dès que vous pouvez. Donc, mon père, il a mis une valise sur la banquette arrière, une autre valise pour ma grand-mère, il a mis son violoncelle, et ils sont partis en voiture de Rilly-la-Montagne. Il n'y est jamais retourné. Quand il est arrivé à Poitiers, parce qu'ils avaient de la famille à Poitiers, puis tous les gens étaient dirigés vers Orléans et Poitiers. Quand il est arrivé à Poitiers, il est arrivé un petit peu comme les pieds noirs à Marseille. Hein. Ils disent une main devant, une main derrière. Mmh. Ma grand-mère n'avait plus de chaussures, elle était déshydratée, en phase d'épuisement total. Quoi. Ils ont fini à la Croix-Rouge. Ils n'avaient plus rien, quoi. Plus de violoncelle, plus rien. Et mon père n'a jamais pu parler de ce qui s'est passé. Il n'a jamais pu ouvrir un mot là-dessus. Et il n'a jamais voulu retourner à Rilly-la-Montagne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pour vous dire, le film Jeux interdits, où ça se passe pendant l'Exode, mon père n'a jamais pu le voir, n'a jamais pu le regarder. C'est là que je me suis aperçu qu'il y avait un problème. Donc j'ai fouillé dans les papiers, j'ai fouillé dans les pieds de la famille, j'ai fait un peu de généalogie et tout, et j'ai fini par me rendre au mois de mai de cette année, en moto. Je suis parti à Épernay, je suis resté 3 jours là-bas, je suis allé aux archives à Reims, où on m'a sorti des gens super sympas, un peu comme les archives à Digne, hein, les archives départementales. Ils m'ont sorti 6 côtes de... Ça fait 6 classeurs, hein, énormes, hein, sur l'Exode. J'ai tout épluché, j'ai passé la journée là-dedans. J'ai trouvé aucune trace de tout ça. Je n'ai que le permis provisoire à mon père. C'est tout ce que j'ai. Et donc, j'ai imaginé, en voyant cet exode en Ukraine, j'ai imaginé mon père. Et qu'est-ce qui a pu se passer qu'il n'a jamais voulu en parler? Je crois que au moment de mourir encore, il en faisait encore des cauchemars. Il m'avait parlé, il m'avait dit j'ai vécu des choses que je n'avais pas à voir. C'est pas possible que ça existe. Comment on peut faire ça aux gens? Voilà, donc le prochain livre.
Ça va être sur cette
ça sera peut-être une histoire tirée de ça, parce que bon, il y a le livre formidable qui a fait. Ça a tourné un film aussi, et puis une BD, c'est Jusqu'au bout de nos peines. Là. C'est, voilà. Un autre film avec Mathilde Seigné sur l'Exode. Hein, voilà, qui se. Bon, c'est parce que ça me touche personnellement. Ben, ça sera l'objet de raconter encore une histoire.
Joël Marteau, merci de nous faire partager.
Voilà. Alors, je suis un peu bavard, hein, je suis désolé. J'ai peut-être un peu mangé sur le temps.
Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup. Donc, on vous retrouve là, le samedi 31 août. Vous serez où ?
Alors, samedi à la librairie de la presse, matin.
Et
le 20 septembre.
À la Ruelle.
À la Ruelle, en fin de soirée. Voilà.
Voilà, pour La guerre n'est pas une aventure, Joël Marteau. Merci beaucoup. Et puis, je me languis de le lire, ce livre.
Mais oui.
Au revoir. Bonne
Allez,
journée.
Au revoir et bonne revoir. Journée.
Thunder, lightning, wind.